Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
En quoi consiste la bénédiction de Dieu? Nous revenons sur cette question fondamentale. Et dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous nous appuierons sur l'enseignement de l'apôtre Paul, et notamment sur le verset suivant.
Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ.
Vous venez d'écouter le troisième verset du chapitre 1 de l'épître que l'apôtre Paul a écrite à l'église d'Éphèse. Antoine est parmi nous pour nous aider dans notre compréhension de cette question importante. En quoi consiste la bénédiction de Dieu? Bonjour Antoine.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Qui oserait affirmer que l'apôtre Paul n'était pas un homme béni? Et pourtant, selon les critères de certains, il faudrait bien en tirer cette conclusion. De nos jours, beaucoup suggèrent que la bénédiction de Dieu repose sur les richesses et les biens matériels, la réussite scolaire, professionnelle et sentimentale, et une bonne santé. Ce sont de bonnes choses. Mais faut-il en conclure que toute personne, même croyante, qui ne jouit pas de ses bienfaits n'est pas bénie? Moi, je suis convaincu que non. L'apôtre Paul n'était pas un homme riche. Il a connu la disette et la pauvreté. Il ne bénéficiait pas d'une bonne santé. Il souffrait dans son corps, tantôt à cause de maladies, tantôt à cause de la violence de ses persécuteurs, et il ne jouissait pas d'une bonne réputation aux yeux du monde. Pourtant, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, son cœur éclate en louanges envers son Dieu, et il se réjouit du fait qu'il est béni. N'oublions pas qu'il se trouvait en prison au moment où il écrit ces paroles.
Merci Antoine pour cette introduction. Paul utilise souvent la petite expression « en Christ » dans ses écrits. Mais quel est son sens?
Oui, ces deux mots sont riches et profonds en signification. Et nous pouvons en tirer deux leçons. D'abord, les bénédictions dont parle l'apôtre sont directement liées à la personne de Jésus-Christ et à son œuvre sur la croix. Autrement dit, sans Christ, sans son sacrifice, personne ne pourrait jamais jouir de ses bénédictions. Elles resteraient inaccessibles, hors de portée. Évidemment, il existe plein de bonnes choses dans la vie qui ne dépendent pas de Christ et de sa croix de cette manière.
Expliquez-vous davantage, s'il vous plaît. Donnez-nous quelques exemples.
Prenons l'exemple des multitudes de personnes qui travaillent leur champ et y sèment des graines dans l'espoir d'obtenir une bonne récolte. La réussite de cette entreprise dépend de nombreux facteurs, notamment des conditions climatiques. Nous pouvons dire que l'homme travaille de son côté et Dieu du sien. L'homme laboure ses champs et Dieu maîtrise la pluie et le beau temps. Toute récolte est une bonne chose, mais sa réussite ne dépend pas de la croix de Jésus-Christ. Après tout, beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens arrivent à obtenir une bonne récolte. Dieu, le Créateur, est bon envers tous. Il en est de même pour la réussite d'un examen, pour une entreprise qui prospère, et ainsi de suite. Ces bonnes choses ne sont pas directement liées à la personne et à l'œuvre de Christ. Elles ne sont pas les bénédictions dont parle Paul.
Quelles sont donc les bénédictions que l'apôtre évoque?
Sa lettre à l'église d'Éphèse en dévoile un certain nombre. Voici une liste. D'abord le salut, le pardon de nos péchés, la rédemption et notre réconciliation avec Dieu, puis notre adoption en tant qu'enfant de Dieu, notre Père. Ensuite, le don de l'Esprit de Dieu. Et enfin, notre héritage et notre espérance, la vie éternelle. Dans nos prochaines émissions, nous parlerons de chacune de ces bénédictions plus en détail. À présent, il suffit de dire que toutes ces bénédictions sont en Christ, c'est-à-dire directement liées à sa personne et à son œuvre sur la croix.
Merci. Mais vous disiez tout à l'heure que vous vouliez souligner deux leçons importantes. Quelle est la deuxième?
La voici. Si ces bénédictions sont en Christ, pour en jouir, une personne doit se trouver aussi en Christ.
Voilà une phrase qui mérite plus d'explications. Que signifie « se trouver en Christ »
Le Nouveau Testament, et surtout l'apôtre Paul, parle de l'union entre Christ et le croyant. Ceux et celles qui mettent leur foi en Christ deviennent un avec lui, ils sont en Christ. Il s'agit d'un mystère spirituel qui dépasse notre entendement, mais aussi d'une réalité attestée par la Bible.
Avez-vous une illustration qui pourrait nous aider à mieux comprendre ce mystère?
Toute illustration serait bien imparfaite, mais prenons celle que Jésus lui-même a annoncée. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, versets 1 à 5, il déclare
« Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. » Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Merci. Jésus utilise une image du monde de la viticulture couramment pratiquée en Israël à son époque. On pourrait, à la place de vigne, parler de manguier ou de bananier, ou de tout autre arbre ou buisson fruitier. Tout arbuste a des racines, un tronc, et puis des branches attachées à ce tronc. On peut affirmer qu'il existe une union, un lien étroit entre le tronc et les branches. Les branches dépendent du tronc et des racines pour se développer et porter du fruit. De la même manière, Jésus, en guise d'illustration, affirme être le tronc et il déclare que les croyants représentent les branches. C'est une façon de décrire l'intimité qui existe entre les deux. Grâce au tronc, les branches s'épanouissent et elles portent du fruit. De la même manière, le croyant grandit et il porte du fruit du fait de sa dépendance de Christ. Autrement dit, pour revenir à la question des bénédictions, le croyant est béni parce qu'il est attaché et uni à Christ, en qui se trouvent toutes les bénédictions spirituelles et célestes.
Tout à l'heure, vous avez énuméré ces bénédictions. Le pardon des péchés, l'adoption, notre héritage éternel, entre autres. Faut-il conclure que nous y avons accès seulement si nous sommes unis à Christ?
Oui, Yann, cela est incontournable. D'ailleurs, en lisant Jean 15, nous découvrons que Jésus ajoute
« Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Il se dessèche, puis on les ramasse. On y met le feu et il brûle. »
Une branche qui n'est pas attachée à l'arbre meurt rapidement. De la même manière, toute personne qui n'est pas attachée à Christ est morte. Et donc, elle n'est pas bénie. D'ailleurs, l'apôtre Paul emploie ce même langage dans le deuxième chapitre de sa lettre aux Éphésiens. Il déclare au verset 1
« Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. »
Ainsi donc, selon Paul et Jésus, si nous ne sommes pas unis à Christ, nous sommes morts. Il s'agit bien sûr de la mort spirituelle, autrement dit de l'incapacité de connaître Dieu et de vivre une amitié avec lui.
Et si nous sommes, comme vous le dites, spirituellement morts, nous ne sommes pas de tout bénis.
C'est exact, Yann. Tout comme une personne morte physiquement ne jouit plus des bonnes choses de la vie, toute personne spirituellement morte ne jouit pas des bénédictions qui se trouvent en Christ, parce qu'elle n'est pas en Christ.
L'enjeu est de taille. Si nous sommes en Christ, nous sommes bénis. Et si nous ne sommes pas en Christ, nous ne sommes pas bénis.
Voilà la conclusion qu'il faut retenir des écrits de l'apôtre Paul.
Ceci dit, il est important de savoir comment nous pouvons vivre en Christ, comment passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, comment ne plus vivre loin de Christ, mais être en lui.
L'apôtre Paul répond à cette question au chapitre 2 de son épître aux Éphésiens, versets 5 à 9.
Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter.
Ce texte nous parle justement de ce passage de la mort à la vie. Mais comment traverser ce gouffre qui nous sépare des bénédictions qui sont en Christ? Paul met l'accent sur l'amour de Dieu, sur sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. Dieu a pris l'initiative de venir vers nous et en Christ, il a pourvu à tout. Les bénédictions en Christ, autrement dit la vie spirituelle, sont un cadeau que nous recevons par la foi. Nous ne méritons pas ces bénédictions. Nous ne pouvons pas les gagner comme une récompense suite à une vie pieuse et droite. Nos bonnes œuvres n'y contribuent en rien. Dieu nous accorde tout par grâce. Une question se pose alors. Comment réagissons-nous devant un tel cadeau, devant une telle grâce? Si nous restons incrédules, nous demeurerons loin de Christ. Si par contre nous y croyons, si nous avons la foi, nous nous attachons à Christ et nous sommes en lui, nous lui appartenons. Imaginez un instant le scénario suivant. Vous vous promenez en ville et sur le panneau suspendu à la porte d'une petite maison vétuste, vous lisez « Derrière cette porte se trouve un trésor inimaginable. Entrez donc. » Que feriez-vous? Resteriez-vous dehors, incrédule et méfiant? Ou bien ouvririez-vous la porte?
Merci Antoine pour ces enseignements enrichissants et importants. Nous comprenons que pour bien être béni, il faut être en Christ, c'est-à-dire avoir la foi en lui. Antoine, vous serez de retour la prochaine fois pour commencer à parler plus en profondeur des bénédictions que nous avons en Christ.
C'est exact, Yann. En attendant de vous retrouver, chers amis, je vous dis au revoir et à bientôt.
Merci encore, Antoine. Sur ce, nous devons vous quitter, mais nous espérons vous retrouver bientôt. Au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.